Bonsoir et bienvenue à ce cours du soir de l'IET. La formule est bien connue aujourd'hui, mais je voudrais, avant d'entrer dans ce cours, eh bien vous dire que, si vous le souhaitez, le jeudi soir ou après-midi ou dans la soirée, en tout cas, vous pouvez faire d'une pierre deux coups, car avant le cours du soir de 20h30, il existe un cours ou plutôt un séminaire de bioéthique et théologie de la création où le public et le grand public, enfin les personnes qui ne suivent pas régulièrement ce séminaire, sont invitées. C'est de 18h à 19h30, en sachant qu'il y a une petite cafétéria en haut où on peut faire réchauffer des choses ou boire une tasse de thé. Donc de 19h30 à 20h30 pour récupérer et reprendre des forces. Ce séminaire est dirigé par le père Alain Mathéus, qui a déjà donné un cours du soir sur la bioéthique, avec le père Thierry Livens, le père Olivier Bonwayne et aussi le père Xavier Dijon. Ce soir, il y avait une première conférence intitulée « L'homme est habité » et le 4 octobre, donc la semaine prochaine, le père Xavier Dijon parlera de l'évolution récente du droit de la filiation. Une question vraiment d'actualité en Belgique et surtout en France en ce moment, vous le savez bien. Alors voilà, vous aurez sans doute tout à la fin du cours sur les tables à l'extérieur quelques exemplaires du programme de ce séminaire de bioéthique intitulé « Bioéthique et théologie de la création » et vous êtes les bienvenus chaque semaine pour suivre ces conférences. Vous savez la manière de faire, 45 minutes de conférence suivie d'une demi-heure de débat après une pause d'un quart d'heure. Voilà, nous voilà maintenant dans le cours intitulé « La porte de la foi ». Vous avez sur le tableau cette affiche. Vous savez qu'il faut chaque fois trouver une illustration pour ce cours. J'en avais trouvé une très belle draperie qui ouvrait vers l'infini, s'intitulait « La voie » et puis finalement, avec d'autres, on a trouvé que cette photographie d'une cathédrale qui a connu des vicissitudes dans l'histoire, la cathédrale de la basilique de la Sagrada Familia à Barcelone, pouvait bien illustrer le concept, la formule en tout cas, de la porte de la foi, avec tous ces gens, tous ces touristes qui sont devant la porte, qui admirent certainement le portail. Et vous voyez, vous savez que l'architectonique de cette basilique est grandiose, et c'est une église en gloire qui semble être présentée, et en même temps très humble, quand on regarde le détail de chaque sculpture, très familière. Le sculpteur Gaudi, l'architecte Gaudi, avait voulu mêler ce style de rocaille et de gothique à la simplicité de la vie chrétienne. Qui va rentrer dans cette cathédrale, dans cette basilique? Qui va faire autre chose que la visiter? Qui va y rencontrer celui qu'elle voudrait signifier, qu'elle voudrait, vers laquelle elle voudrait mener? Cette porte de la Sagrada Familia s'intitule en réalité la porte de la nativité. C'est vrai que c'est dans l'incarnation, par la naissance du Christ en chacun de nous, que naît la foi. Un cours intitulé « La porte de la foi », vous le savez, Benoît XVI a décidé de promulguer une année de la foi pour toute l'Église, année qui commencera le 11 octobre pour le 50e anniversaire de l'ouverture de Vatican II jusqu'au 23 novembre 2013, fête du Christ-Roi. Ce sera aussi, cette année 2012-2013, le 20e anniversaire de la publication du catéchisme de l'Église catholique, de ce recueil des données de la foi et qui permet aux chrétiens de progresser dans la connaissance de la foi. Dans sa bulle d'indiction intitulée « Porta Fidei », Benoît XVI souhaitait que cette année soit un temps de réflexion, un temps de réflexion particulière et de redécouverte de la foi. Et il invite les chrétiens à parcourir de nouveau l'histoire de leur foi. Une histoire qui est celle de l'Église, bimillénaire, une histoire qui est personnelle. Un jour, nous avons eu chacun la foi, si nous sommes baptisés. Un jour, peut-être, l'avons-nous perdue. Un jour, peut-être, l'avons-nous retrouvée. En tout cas, un jour, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait la foi et moi. Benoît XVI dit d'ailleurs que cette histoire de la foi entrelace, la formule de lui, entrelace la sainteté et le péché. L'IET pense que il était bon de répondre à cette proposition de Benoît XVI avec ce cours du soir au service de l'acte de croire et de l'évangélisation, pourquoi pas, en prenant bien sûr en compte les interrogations que suscite la foi dans notre monde. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le discours apocalyptique de Luc, chapitre 18, eh bien, cette question de Jésus conclut en fait la parabole du juge et de la veuve. Et nous dit Luc, Jésus donne cette parabole pour parler de la nécessité de prier en tout temps sans se décourager. Un tel récit qui met en scène un oppresseur, en l'occurrence un juge, qui ne semble pas écouter celle qui est opprimée au plan de la justice sociale, c'est grave. Un tel récit articule la foi à l'espérance, à la justice et donc à la charité. L'espérance, ne pas se décourager. La justice, cette femme a reçu la justice de ce juge inique. Recevoir gratuitement le salut, le jugement de salut de Dieu qui fait justice. Et Jésus nous dit, dans la venue du Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette articulation de la foi avec la justice, avec l'espérance, eh bien, va structurer notre cours. Quand le Fils de l'homme viendra, n'est-ce pas une belle définition de la foi? L'avènement du royaume au cœur du croyant, qui est aussi un avènement au cœur du monde. J'aimerais, au début de ces sessions sur la foi, et avant de vous parler du contenu même du cours, méditer un petit peu avec vous sur le thème de la porte. Porta Fidei, la porte de la foi. C'est ainsi que Benoît XVI avait intitulé son document sur l'année de la foi. Il y a dans les Actes des Apôtres cette expression qui apparaît lorsque Paul revient avec ses disciples d'Iconium vers Antioche. Et là, nous dit le récit des Actes des Apôtres, eh bien, Paul se réjouit et tous se réjouissent parce que Dieu avait ouvert la porte de la foi aux païens. Formule qu'on ne retrouve nulle part dans les évangiles et même dans le reste de la Bible, mais qu'on peut rapprocher d'une autre porte. À Jérusalem, il y avait une belle porte. Au troisième chapitre des Actes, ce n'est pas Paul mais Pierre qui aperçoit un mendiant impotent. Le mendiant de la belle porte. Lisons ce récit. Voyant Pierre et Jean sur le point de pénétrer dans le temple, le mendiant leur demanda l'aumône. Alors Pierre fixa les yeux sur lui, ainsi que Jean, et dit « Regarde-nous ». Il tenait son regard attaché sur eux, s'attendant à en recevoir quelque chose. Mais Pierre dit « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazoréen, marche. » Et le saisissant par la main droite, il le releva. À l'instant, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout, et le voilà qui marchait. Il entra avec eux dans le temple, marchant, gambadant et louant Dieu. Je me demandais tout à l'heure, tiens, qui va entrer à l'intérieur, par cette porte. Nous voyons dans les Actes des Apôtres, eh bien, au moins déjà quelqu'un qui entre pour louer, en gambadant, nous dit les Actes des Apôtres. Et quelques moments plus tard, quand Pierre doit parler au peuple parce qu'ils sont étonnés de cette guérison, et on fut rempli d'effroi et de stupeur au sujet de ce qui était arrivé à ce mendiant, eh bien, Pierre dit, il reprend toute l'histoire du peuple d'Israël et de l'Alliance à partir de la vie de Jésus, celui que vous avez renié devant Pilate, mais vous avez chargé le saint, le juste, vous avez réclamé la grâce d'un assassin, vous faisiez mourir le prince de la vie, Dieu l'a ressuscité des morts, nous en sommes témoins, et par la foi en son nom, à cet homme, ce mendiant qui était paralysé, que vous voyez et connaissez, ce nom même a rendu la force, et c'est la foi en lui qui devant vous tous l'a rétabli en pleine santé. Visiblement, cet épisode d'un mendiant guéri par Pierre à la belle porte du temple de Jérusalem, eh bien cet événement se reproduit avec Paul et non plus à Jérusalem mais à Iconium, non plus dans un contexte juif mais païen. Vous savez que Paul, après cette guérison, va être obligé de faire toute une catéchèse à ceux qui voulaient les déifier parce qu'ils avaient guéri. Et voilà ce que dit Paul. Écoutons d'abord la guérison de cet impotent d'Iconium. Il y avait là, assis, un homme perclus des pieds, impotent de naissance, il n'avait jamais marché. Il écouta Paul discourir, celui-ci arrêtant sur lui son regard et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » Il se dressa d'un bond, il marchait. voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Il a fallu simplement un regard, comme entre Pierre et le mendiant de la belle porte, ce regard entre Paul et cet impotent, pour que la porte de la foi s'ouvre. La porte. Le thème de la porte est assez riche dans le monde de la Bible, et on pense non pas au temple des aux portes des cathédrales, mais aux portes du temple de Jérusalem, aux portes de la ville de Jérusalem que célèbrent les psaumes que chantent les prophètes. Je vous ai mis Isaïe 26:2, qui est une ouverture de ces portes pour non plus la seule nation juive, mais pour la nation juste qui observe la fidélité. Ah tiens, voilà, on associe la porte, l'ouverture de la porte de la ville, à ceux qui observent la fidélité, la foi. La Septante, la Bible grecque, dit la vérité. Et puis, il y a cette image que Jésus emploie lui-même, qu'on trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, au verset 2 à 7. L'image de la bergerie, de l'enclos, du bercail, et c'est le Christ qui est la porte. Je suis la porte. C'est lui qui donne l'accès à la foi. Saint Augustin s'étonne de cette image et dit, mais Jésus a dit qu'il était le pasteur, alors comment est-il le pasteur et la porte? Et voilà comment il résout la difficulté en disant, ben voilà, oui. Celui qui entre par moi, dit Saint Jean, celui-là sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Et Augustin commente, on entre dans la bergerie qui est l'Église pour la vie temporelle qui est vécue par la foi. On sort par la porte, c'est-à-dire par le Christ, pour vivre de la vie éternelle qui sera vécue dans la vision. La porte est la porte de l'Église, la porte est la porte de la vie éternelle. Pour Augustin, ce n'est possible que parce que l'Église est le Christ dans son corps, c'est le corps du Christ. Et vous connaissez bien la théologie peut-être du Christ total, tête et membre, l'Église étant constituée des membres du Christ, jusque dans la vie éternelle où elle sera, comme elle l'est déjà sur cette terre, rattachée à la tête. Il y a une petite porte aussi dont parle l'Évangile, c'est la porte étroite. Entrez par la porte étroite, dit Jésus. Je voudrais simplement vous donner cette méditation de Benoît XVI lors de l'Angélus. Ça faisait pas longtemps qu'il était pape, hein, et pourtant il n'hésite pas à être lui-même assez précis. C'est le texte numéro 3. Si vous n'avez pas le texte, vous pouvez vous lever sans crainte, et il y en a un étudiant a eu la gentillesse d'en photocopier d'autres exemplaires, donc n'hésitez pas. Je lis pendant ce temps ce texte. Au cours de sa dernière montée vers Jérusalem, quelqu'un lui demanda « Seigneur, est-ce le petit nombre qui sera sauvé ?» Et Jésus répond « Luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas. » Que signifie cette porte étroite? Pourquoi un grand nombre ne réussit-il pas à y entrer? S'agit-il d'un passage réservé uniquement à quelques élus? En effet, tout bien considéré, cette façon de raisonner des interlocuteurs de Jésus est toujours actuelle. Il existe toujours la tentation d'interpréter la pratique religieuse, disons la religion, comme une source de privilèges, ou de certitude. En réalité, nous dit Benoît XVI, le message du Christ va précisément dans le sens inverse. Tous peuvent entrer dans la vie, mais pour tous, la porte est étroite. Il n'y a pas de privilégiés. Le passage à la vie éternelle est ouvert à tous, mais il est étroit. Il est étroit, car il est exigeant. Il demande application, abnégation et mortification de son égoïsme. En d'autres termes, la foi peut se distinguer de la pratique religieuse, peut se distinguer de la religion, d'une religion extérieure qui n'aurait pas de conséquences sur les actes du croyant, alors que la foi, l'acte de foi, exige application, abnégation, mortification de son égoïsme, dit Benoît XVI. La foi a des conséquences concrètes, et on pourrait dire que ce sont quelques qualités de l'acte de foi que nous entendons dans cet Angélus. Voilà quelques résonances bibliques. Je me suis inspiré notamment de la belle conférence que le père Joël Rochette a prononcée à l'ouverture de l'année académique au séminaire de Namur la semaine dernière. Et où il faisait d'autres résonances bibliques, mais j'ai privilégié celle-ci. Quel va être le parcours de notre programme pour arriver jusqu'à cette porte de la foi, pour y entrer ? Bien, vous avez le folder et qui vous donne le programme. Je vous ai dit que nous allons essayer d'articuler la foi avec la justice, et quand on parle de justice, on parle obligatoirement de la charité et donc la question morale et articuler la foi avec l'espérance et donc qui vise l'aboutissement de la foi. On va essayer de comprendre, en d'autres termes, comprendre ce qu'est l'acte de foi. Ce sera l'objet de la première partie de nos leçons. Nous allons examiner la profession de la foi, le contenu du credo. Alors nous ne pourrons pas prendre tous les éléments du credo que l'on prend, que l'on récite, que l'on professe à la messe, notamment le symbole des apôtres ou le symbole de Nicée-Constantinople, mais nous en prendrons les éléments les plus caractéristiques. Et puis nous verrons la foi dans ses implications, ce sera la troisième partie qui examine le lien entre la foi et la charité, entre la foi et la vie chrétienne. Et puis, enfin, l'aboutissement de la foi. L'aboutissement, il est pour notre vie à venir, mais il est aussi dans l'acte où se vit peut-être notre foi de la manière la plus nue possible, dans la prière, dans la vie mystique. Ce qui donne donc quatre parties, avec comme séance, et je vous donne le nom des professeurs qui vont nous aider à rencontrer l'acte de foi et son contenu, ses implications et son aboutissement. Il y a le père Warny, la semaine prochaine, qui nous parlera de la foi biblique, suivre la trace d'Abraham. C'est tout ce que dit la Bible et qui aboutit au discours de Paul dans la lettre aux Romains, notamment. Et puis là, petit changement par rapport au folder, ce qui est écrit à la séance 5, eh bien, sera la conférence aura lieu le 11 octobre. Donc pour la séance 3, ce sera la révélation de Dieu et la réponse de l'homme. Ce sera une lecture essentiellement de la constitution Dei Verbum. Et c'est le père Albert Verwilgen qui donnera cette conférence. Et puis nous étudierons un cas particulier, peut-être, Un cas typique, sans doute, c'est comment le cardinal Newman, le bienheureux Newman, il a été béatifié il n'y a pas longtemps, a réfléchi sur l'acte de foi. Enfin, pour clore le parcours de l'acte de croire comme tel, nous regarderons le rapport entre la foi et la raison, et c'est le père Pierre Piret qui nous donnera cette leçon. La deuxième partie, le credo, c'est le père Pascal-Marie Jérémy-Nénis qui va balayer l'histoire du credo pour mieux nous faire comprendre pourquoi nous pouvons dire « nous croyons ». Et en même temps, ensemble, chaque dimanche, nous disons non pas « nous croyons », mais « je crois ». Confesser ma foi et notre foi en Église. Comment s'est constituée cette profession commune de la foi dans l'histoire. Et puis, moi-même, je reprendrai ce que disent les articles du credo sur le Dieu comme créateur et le Dieu comme sauveur. Est-ce que ce sont deux choses très différentes? Dieu qui nous crée et qui nous sauve. Puis Pierre Piret, de nouveau, nous parlera du Christ comme centre de la foi en tant qu'il est homme et Dieu. La porte de la foi, c'est lui. Il est homme et Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Le père Jean-Marie Hainaut a accepté d'évoquer la question du comment de la foi. Qu'est-ce que c'est que la justification? Qu'est-ce que cela signifie que Dieu nous sauve? Ta foi t'a sauvé, qu'est-ce que cela signifie? Et vous savez que catholiques et réformés et protestants ont beaucoup avancé dans une compréhension commune de la justification. Enfin, Sœur Noël Haussmann reprendra la question du croire l'Église. Est-ce qu'on croit dans l'Église ou est-ce qu'on croit l'Église? C'est tout à fait différent. Enfin, la troisième partie, éthique, dialogue et annonce. Je crois, donc j'agis en chrétien, c'est le père Mathéus, le même qui préside au séminaire de bioéthique, qui nous parlera sur la spécificité ou non de la morale chrétienne. Est-ce que le fait d'avoir la foi nous fait agir autrement? Et le père Jacques Scheer, quant à lui, va déployer une théologie des religions avec les deux formules qu'on utilise au Vatican, annonce et dialogue. Parce que la foi chrétienne est l'occasion d'une annonce, l'objet d'une annonce, ou est-ce que c'est l'occasion d'un dialogue? Comment est-ce qu'on articule l'annonce et le dialogue? Enfin, la quatrième partie, je vous l'ai dit, sur la foi qui espère. Eh bien, le père Gervais nous reprendra les articles, l'article du credo qui dit « Je crois en la vie éternelle, je crois au jugement, je crois au... » Qu'est-ce que cela signifie « Je crois en la vie éternelle » Et enfin, notre nouveau président de l'IET, le père Thierry Livens, a accepté de conclure cette série de conférences par une réflexion sur la foi et ce qu'on appelle communément la vie dans l'esprit, la vie spirituelle, la mystique, où nous pourrons voir comment la foi de moins en moins a besoin de support extérieur, mais dans la rencontre personnelle de Dieu, la foi se donne à plein. Beaucoup de parmi vous connaissent la procédure pour s'inscrire comme étudiant libre. Vous avez deux paquets bleus, deux bagues bleues. Donc vous prenez celui de gauche, vous mettez votre nom et vos coordonnées. Et puis une fois que tout est rempli, vous le mettez dans le deuxième bac. On vous fera signe pour les participations aux frais et... ne vous inquiétez pas à ce sujet. Foi et religion. La citation de Benoît XVI nous disait déjà que ben, ce n'était pas si évident. Pratique religieuse et foi, ce n'est pas forcément synonyme. Cette séance, vous voyez, réduite à simplement pour but de déblayer le terrain de nos cours. Alors je voudrais commencer par le vocabulaire de la foi et poursuivre en examinant ce qu'on appelle communément la religion et voir comment on peut comprendre dans la singularité de la foi chrétienne la problématique foi et religion. Ce cours s'inspire beaucoup du cours qui est donné habituellement à l'IET, non pas par moi-même, mais par le père Albert Verwegen. Mais il sera là pour nous parler de Dei Verbum dans quelques séances. Souvent, sans en prendre conscience, nous l'affirmons, cette foi. Amen. On le dit tout le temps. Amen. D'où vient ce petit mot ? Amen. Amen, c'est la racine aman, en hébreu, qui veut dire ce qui est solide, ce qui est sûr, et par extension, ce qui est vrai, ce qui tient fermement, la vérité. En hébreu, dans l'hébreu biblique, emuna, emet, ce sont les mots qui disent la foi, la fidélité. C'est le pôle de la confiance. Le grec a traduit ces mots de cette racine par fides, pardon, pistis en grec. Pistis, pisteo. Et en latin, donc, fides, qui a donné directement le mot foi. Mais en grec, on retrouve, et notamment dans la Septante, dans la traduction grecque de la Bible au 5e siècle avant notre ère, eh bien, ce n'est pas toujours pistis, ça peut être aletheia, le mot vérité. Le mot vérité, et cela nous donne une orientation pour comprendre ce registre de la foi comme ce qui nous permet d'accéder à la vérité à travers ce qui est sûr, et donc ce vers quoi on va donner sa confiance, une foi qui est confiance. La première apparition du verbe croire dans la Bible, on la trouve au livre de la Genèse, au chapitre 15, verset 6. Au sujet d'Abraham. Abraham a reçu une promesse invraisemblable, promesse de bénédiction, promesse de postérité, et que nous dit le récit biblique, Abraham eut confiance dans le Seigneur. La TOB, la traduction œcuménique de la Bible, dit même, Abraham eut foi dans le Seigneur. La foi, c'est alors le contraire du soupçon, c'est vraiment la confiance. Elle naît d'une relation opposée au mensonge, une relation de vérité. Le moteur de la foi dans son pôle de confiance, c'est la fermeté d'une vérité objective. Mais en hébreu, on trouve un autre pôle. C'est avec la racine bata ou mipta. Bata, mipta. Et là, c'est l'adhésion. C'est le fait de se reposer. Non pas seulement de le pôle de la fidélité à la vérité, mais le fait d'avoir confiance dans une espérance. Et d'ailleurs, le grec traduira ces termes par non plus pistis, mais elpis. En latin, cela donne spes, l'espérance. La foi, espérance. Mais en même temps, cette espérance, elle est fondée sur ce qui agit sur celui qui croit. C'est celui qui croit qui espère. Donc l'objectivité du témoin de la vérité s'estompe. C'est ce que je vis qui reçoit son sens dans ce à quoi je crois. L'accent dans ce pôle, dans ce deuxième pôle, qui est celui de la conviction, après le pôle de la confiance, c'est sur l'effet sur soi de ce qui est cru. Ce qui me convainc, mais qui me donne un ensemble de valeurs qui vont me définir, qui vont me donner mon authenticité. Je crois en ceci. Voilà mes valeurs. Ce n'est plus le pôle de la vérité objective, mais c'est le pôle de la réalisation subjective. On voit donc qu'il y a une fois confiance et une fois conviction. Et bien sûr, la foi mêle ces deux pôles. Dans le vocabulaire religieux, je vous ai donné comme exemple de foi-confiance Genèse 15:6 avec Abraham. Je pourrais, pour le deuxième pôle, la foi-conviction qui va transformer celui qui croit, le psaume 9:10 où l'on parle du Seigneur alors comme un refuge. Le Seigneur est un refuge pour celui qui croit, pour celui qui est opprimé et qui espère en lui. Ou le psaume 90, verset 4. Beaucoup verront et craindront. Ils auront foi dans le Seigneur. Ils compteront sur le Seigneur, dit la Tob. La Tob préfère le pôle de la confiance avec le mot foi. Et alors, du coup, le pôle de la conviction, c'est ils compteront sur le Seigneur. Dans le latin de la Vulgate, c'est espérer. Hein. Ils espéreront dans le Seigneur. La foi. Quand on parle de la foi, on peut parler de la foi en général et dans beaucoup d'éléments de notre vie. Moi, je crois volontiers dans l'homéopathie. C'est la foi confiance et la foi conviction aussi. Hein. Il faut être convaincu pour que ça marche. Mais est-ce que Dieu est objet de foi de la même manière? Quelle articulation entre la foi en Dieu et le fait que c'est le témoignage, que c'est le témoignage humain qui permet cette foi. C'est la véritable question de la foi qu'on va rencontrer tout au long de notre cours. Quelle articulation entre le témoignage et Dieu qui parle? Le témoignage humain sur Dieu et Dieu qui parle. Comment fonder la conviction et le témoignage et recevoir le témoignage objectif? Est-ce que la foi est une pensée de l'homme? Ou est-ce que c'est un don? Est-ce que croire en Jésus-Christ, c'est simplement un acte par lequel l'homme va vers Dieu, ou c'est, comme dit le père Albert Verwilgen, une emprise de Dieu sur l'homme en Jésus-Christ? Je vous ai mis ce texte que j'aime beaucoup de Saint Augustin, c'est le texte numéro 4. Il exprime, je crois, à la fois la foi conviction et la foi confiance. J'entrais dans l'intimité de mon être sous ta conduite. Je l'ai pu. Donc c'est une prière, évidemment, d'Augustin à son Dieu. Je l'ai pu parce que tu t'es fait mon soutien. N'est-ce pas là la reconnaissance d'une foi qui est conviction. J'entrais et je vis avec l'œil de mon âme, quel qu'il fût au-dessus de mon intelligence, la lumière immuable. Elle n'était pas au-dessus de mon intelligence comme de l'huile au-dessus de l'eau, ni comme le ciel au-dessus de la terre. Dans l'intimité de son être, l'acte de foi de l'être, l'acte de foi n'est pas quelque chose qui se surajoute à la vie de l'homme. Mais elle était au-dessus parce que c'est elle-même qui m'a fait, et moi en dessous parce que j'ai été fait par elle. C'est la vérité, la foi confiance, la foi objective, non plus le pôle subjectif qui est là. Qui connaît la vérité connaît cette lumière. Qui la connaît connaît l'éternité. Et cette vérité, bien, Augustin aime dire que vérité et charité en Dieu sont synonymes. La charité la connaît. Ô éternelle vérité et vraie charité et chère éternité, c'est toi qui es mon Dieu. Magnifique acte de foi d'Augustin. La religion. Foi, religion. Quel est le domaine de la religion? Dans le dictionnaire critique de théologie, vous avez un article sur la foi. Un magnifique volume, un dictionnaire critique de théologie, c'est en un seul volume, mais avec les, sont vraiment les experts du moment, de langue francophone essentiellement. Donc c'est toujours intéressant, qui réfléchissent sur la théologie. Il y a un article sur la foi, mais alors quand on regarde la religion, eh bien, on va retrouver d'abord philosophie de la religion, hein, un article qui essaye de déterminer, tiens, qu'est-ce que c'est que la philosophie de la religion, comment est-ce qu'on peut cerner la forme du fait religieux et même discerner l'essence de la religion sans faire intervenir l'acte de foi. Et puis, il y a un deuxième article qui s'intitule « Vertu de religion ». Ah, tiens, la vertu de religion, il faut aller voir à l'article « culte ». Et cet article « culte », eh bien, reprend toute la tradition théologique sur les actes de la religion, les formes extérieures de la religion qui s'associent, qui sont indissociables même, des actes intérieurs de la religion comme vertu liée à la justice, c'est-à-dire comment l'homme répond à la révélation de Dieu, ce qu'il doit faire en réponse à la révélation de Dieu. C'est ce que nous célébrons régulièrement, ce que nous disons à travers les formules, la formule qui « il est juste et bon de te rendre gloire ». À chaque Eucharistie, nous entendons et nous disons cela, il est juste et bon. Bien, on est en plein dans la vertu de religion. On reconnaît la justesse et la bonté de la célébration que nous vivons. On devrait y penser plus souvent, quelquefois. Donc, c'est une réflexion sur l'acte extérieur et l'acte intérieur. Et puis, je le dis en passant, il y a un article sur la religion naturelle, sur la théologie des religions. Et je ne vais pas faire de théologie des religions maintenant, je préfère vous introduire au mot religion à travers son étymologie classique, parce que c'est une petite histoire amusante. C'est un mot latin, est-ce que ça vient de lire, legere, ou de lier, ligare? Et donc, est-ce que c'est relegare, relire, ou religare, relier? Est-ce que la religion, c'est le fait de de relire ou est-ce que c'est sa relique? Eh bien, les anciens sont posés la question. Cicéron se pose la question, 1er siècle avant Jésus-Christ, et pour lui, l'attitude religieuse se définit par une attitude de réflexion sur l'acte même de la religion. Et là, c'est vraiment la religion comme le fait de relire. À la fin du 3e siècle après Jésus-Christ, Lactance, qu'on a surnommé d'ailleurs le Cicéron chrétien, eh bien, lui dit non, l'étymologie de Cicéron est fausse. C'est que la religion ne se définit pas par la manière de vivre le culte, mais par vers ce à quoi tend le culte. Religare, la religion, c'est ce qui relie l'homme à Dieu. Et alors, notre maître Augustin, eh bien, va dire oui, moi je préfère religare, je préfère l'expression de relier l'homme à Dieu, mais il admet quand même que oui, on a besoin d'une relecture, d'une introspection sur l'acte même de notre religion, et c'est bien ce qu'il a fait dans le texte que je vous ai cité dans les Confessions, c'est ce retour vers lui-même. Et lui-même se dit, bah tiens, pourquoi pas, avec toutes ces étymologies, faire un jeu de mots et choisir « re » et « legere », c'est-à-dire, c'est d'actualité, « re » et « lire » Dieu. La religion, ce serait le fait de le choisir sans cesse. Le fait de choisir Dieu sans cesse. Peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait aussi inverser la définition augustinienne et se dire, tiens, et si la religion, c'était la réélection de Dieu pour chacun de nous? Et ce serait la réponse au choix de Dieu. Nous ne pouvons pas choisir Dieu si Dieu ne nous choisit pas. La religion, nous dit l'anthropologie religieuse aujourd'hui, eh bien, elle est en quête de l'ultime. Elle ne crée pas son objet, mais elle le reconnaît. Et de ce fait même, cette reconnaissance de la réalité ultime se fait à la fois de manière intérieure et de manière extérieure, de manière spirituelle, personnelle et de manière sociale, historique. Elle met en jeu des comportements de l'homme. Avec d'autres, on peut dire la religion, c'est un phénomène social qui implique des croyances, des rites, une communauté. Mais ça, on le sait bien, la religion, ça peut être aussi tout simplement un sentiment ambigu, plus ou moins, mêlé de superstition, de crainte, de magie. Donc foi et raison, eh bien, religion ne semble pas toujours faire bon ménage. Je vous ai mis un texte de Joseph Ratzinger. Quand il était cardinal, il avait eu un débat avec le philosophe Habermas sur le thème raison et religion, sur la sécularisation et le religieux. Parce que aujourd'hui, avec le retour du religieux et du fanatisme religieux, on peut se demander, tiens, quelle est la valeur d'une religion et comment mesurer cette valeur de la religion. Et alors il pose la question, la religion est-elle une force qui permet d'être heureux, d'être sauvé, c'est le texte que je vous ai mis, ou n'est-elle pas plutôt une force archaïque et dangereuse qui édifie de faux universalismes et fomente ainsi l'intolérance et le terrorisme? Et alors, comment délimiter cette force religieuse? On le sait, c'est un débat et c'est devenu un thème de la réflexion du pape Benoît XVI dans son discours à Ratisbonne, comment la violence peut être évacuée de la religion. Et il a proposé peut-être négativement à Ratisbonne ce qu'il a proposé positivement à Paris dans son discours sur la culture et sur l'association harmonieuse de la foi avec la raison. Foi et religion, Si j'ai choisi ce titre au début, c'est parce que au XXe siècle, on a connu un jugement péjoratif sur la religion, et en disant, ben voilà, la religion, ce n'est qu'un ensemble de structures humaines qui n'a finalement rien à voir avec la foi, avec l'acte de foi. Et cette opposition eh bien, a été faite sous la forme de la vulgarisation de la pensée d'un théologien protestant, Karl Barth. En Europe, tout spécialement, sa pensée a nourri l'idée de dissociation de foi et de religion. Karl Barth, ce pasteur suisse, qui a été marqué par le délitement de l'Église protestante dans le monde germanique, réagissait précisément contre le protestantisme libéral et la critique de la lecture habituelle, dévote de la Bible, sous l'influence de l'herméneutique moderne, de la recherche historique. Eh bien, le protestantisme allemand, surtout, a été tenté de dissoudre la révélation chrétienne dans sa singularité, dans la religion, dans une religiosité générale. Le christianisme n'était finalement mesuré plus que par son niveau de culture, son niveau de morale, et était considéré comme une religion parmi d'autres. Le fait inouï du Christ aurait été mis de côté. Et c'est contre cette tentation que réagit Karl Barth. Il refuse d'instrumentaliser Dieu et de donner une valeur aux tentatives humaines de cerner Dieu en fonction de la religion et de sa manifestation. Ce n'est pas nous qui allons dire à Dieu qui il est, mais nous recevons de Dieu sa révélation. Et il a élaboré, vous le savez, une théologie de la justification. Dieu est libre, dit-il, libre par rapport à l'Église, à la doctrine. Et c'est la parole de Dieu qui juge l'œuvre de l'homme et toute la construction religieuse. Alors il va proposer, pour respecter la transcendance de la parole de Dieu, eh bien, une assomption de la religion. C'est un chapitre de sa dogmatique de 1932 qui s'intitule « La révélation comme assomption de la religion ». C'est le texte numéro 6. Ce texte est comme une condamnation de la religion par rapport à l'acte de foi et qui répond à la révélation. « Du point de vue de la révélation, dit Barth, la religion apparaît comme une entreprise qui consiste en quelque sorte à prévenir et à prévoir le dessein de Dieu, à substituer à son œuvre une construction humaine, bref, à installer une image de Dieu issue de l'autonomie et de l'arbitraire humain, en lieu et place de la réalité divine telle qu'elle s'offre à nous dans la révélation. » La révélation comme assomption de la religion, en allemand Aufhebung. Et Aufhebung, ça veut dire l'élévation, assomption, mais ça veut dire aussi abolition. Ça veut dire assomption comme assumer, mais ça veut dire assomption comme aussi remplacer. Barth a des mots très durs sur la religion. Il dit « elle est unglaube », elle est incrédulité. Dieu se donne à connaître librement. Dieu se réconcilie l'homme librement. Et la foi doit être un pur accueil de la parole de Dieu. Et en aucune manière, elle ne peut être l'œuvre de l'homme, mais seulement un impact de Dieu dans l'homme. C'est le texte numéro 6, numéro 7, je ne vais pas vous le citer parce que je suis en retard, mais on retrouvera cette question lorsque nous allons évoquer la justification. La religion, eh bien, la religion, Barthes dira quand même, mais il existe quand même une vraie religion. La religion n'est pas tout entière fausse, elle est vraie religion quand il y a rassemblement de ceux qui sont sauvés, qui sont croyants. Il y a une vraie religion comme il existe des pécheurs justifiés. Le croyant est celui qui est pécheur, mais qui est justifié par la révélation du jugement de Dieu qui le sauve. La religion chrétienne, c'est précisément l'accueil dans la communauté des pécheurs justifiés, l'accueil du jugement de la révélation. Ainsi, l'acte de foi doit purifier la religion. La foi, en établissant cette relation vitale entre le croyant et le Christ, eh bien, révèle Dieu. Pardon, le Christ qui révèle Dieu et justifie l'homme, eh bien, l'acte de foi est reconnaissance de la parole de Dieu. L'acte de foi est donc un acte de Dieu lui-même. Et la vraie religion, c'est la communauté chrétienne où l'Église de Dieu est disponible à l'appel de Dieu. La singularité de la foi chrétienne, nous allons l'observer pendant toutes nos séances de ce cours. Mais il me semble, quant à moi, qu'elle articule la foi à la religion sans les opposer. La singularité de la foi chrétienne, c'est de proposer la foi selon une double entrée, et avec ce pôle objectif et ce pôle subjectif. Il y a le pôle objectif de l'accueil de la fidélité de Dieu. Celui qui a foi, n'est-ce pas d'abord Dieu ? Foi en tant que fidèle. Fidèle dans l'accomplissement de ses promesses, selon la foi biblique. Foi de Dieu de telle sorte qu'il se présente à l'homme, qu'il se révèle. Foi de l'homme qui, dans la religion, professe sa foi, répondant ainsi à la parole de Dieu. L'articulation chrétienne de la foi et de la religion est ainsi de mêler l'attitude intérieure authentique, une humilité, un accueil, à une attitude extérieure, un engagement, une recherche. La religion chrétienne, la religion, n'est pas un simple soubassement, une simple préparation à la foi. Le monde de la religion est traversé de part en part par le courant de la foi. Et je vous laisse lire par vous-même les deux derniers textes, le premier, celui du père de Lubac, sur l'acte de foi comme un acte essentiellement religieux, en réponse à l'initiative divine, et sur la foi chrétienne dans le catéchisme de l'Église catholique, en tant qu'elle est la foi chrétienne et religion de la parole de Dieu. La foi chrétienne n'est pas une religion du livre, le christianisme est la religion de la parole de Dieu. Voilà quelques éléments pour introduire, j'ai été très très rapide, ce cours se continue dans quelques instants avec, si vous le souhaitez, questions-réponses, peut-être des précisions, peut-être des développements. Nous avons la chance d'avoir plusieurs professeurs de l'IET parmi nous, donc nous pourrons être aidés dans notre recherche aussi pour un débat ou des réponses que je ne saurais peut-être pas donner. Mais voilà, ceux qui auraient besoin de partir maintenant, eh bien, sentez-vous libres. Vous prenez tous les papiers que vous voulez à la sortie. Vous pouvez faire, si ce cours vous semble intéressant, faire connaître ce cours. Il y a encore un peu de place hein, pour les prochains. Et puis, il y a ce petit dépliant pour ceux qui...